Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le copain Jack Burton, il regarde l'orage bien droit dans les yeux et il lui dit
« T'es si tocard que tu passerais pour un chef-d'œuvre de l'art moderne !»
Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
Ce sont les gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur.
Elle nous connaît dans les coins, la frangine.
Bonjour et bienvenue dans Sale Temps pour un film, l'émission qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et tous les mois on se retrouve avec mon équipe de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné du moment. Aujourd'hui c'est le retour de notre format spécial interview pour parler des films directement avec ceux qui les font. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas fait et puis on a la chance de faire cette émission dans notre tout nouveau studio. Alors avant de se lancer, un petit mot pour remercier notre soutien Eurochannel. Eurochannel, la chaîne 100% fiction et cinéma européen. Retrouvez des films et des séries télé exclusifs et inédits sur les offres de Bouygues, Orange et Free. Pour tout savoir, rendez-vous sur eurochannel.fr. Pour ce numéro spécial côté intervieweur, on sera trois à passer nos invités sur le grill. J'ai le plaisir de retrouver Vincent. Salut Vincent.
Salut Clémence.
Et Stéphane.
Salut Clémence.
Et puis on n'oublie pas notre producteur chef d'orchestre préféré au taquet derrière sa console. Salut Alain.
Salut Clémence.
Côté interviewé, on a de la chance, on en a deux pour le prix d'un. Le premier est scénariste, le second scénariste et réalisateur, et ils n'en sont pas à leur première collab puisqu'ils travaillent ensemble, ils travaillaient déjà ensemble sur les séries d'animation Chrono Kids, Crisis Young ou encore Last Man. Avec Mars Express, ils passent au grand écran. J'ai le plaisir d'accueillir Laurent Sarfati et Jérémy Perrin.
Salut.
Salut Clémence.
Alors on est ravis de vous accueillir. Un petit mot sur Mars Express qui sort en salle donc ce mercredi 22 novembre. Direction la planète Mars pour une dystopie cyberpunk. On est en 2020. On suit Aline Ruby, détective privée au caractère bien trempé, et Carlos Rivera, son partenaire android. Ensemble, ils enquêtent sur la disparition de John Cho, une étudiante en cybernétique traquée par des mercenaires assassins. Alors Mars Express, on en entend beaucoup parler pour le côté science-fiction, mais ce personnage d'Aline, on retrouve aussi les grands marqueurs, l'archétype du détective de film noir, à la fois doué et torturé, cynique mais plein d'humour, avec un rapport particulier à l'addiction. Qu'est-ce qui vous a donné envie de mélanger ces deux grands styles cinématographiques?
Ouais, mais c'était surtout un manque qu'on avait sur ce type de genre de film, quoi, qui, au moment où on a eu l'opportunité de faire autre chose juste derrière Last Man saison 1, nous on avait tout de suite eu envie de faire de la SF parce qu'on adore ça, tout simplement, hein, on a juste suivi nos goûts. Et mais après, voilà, dans la science-fiction, il y a vraiment plein de genres possibles, plein de sous-catégories, etc. Et ce qui nous semblait nous manquer vraiment à ce moment-là, dans le paysage du cinéma, c'était une SF plus tangible, plus pragmatique, etc. Et donc, on était un peu dans un trip hard SF, etc. Alors, c'est pas exactement ce qu'on a fait au final. C'est vrai que j'ai beaucoup poussé dans les avant-premières, dans les interviews, à dire hard SF. C'est pas exactement ce qu'on a fait. Mais en tout cas, de faire une science-fiction basée quand même sur nos connaissances scientifiques actuelle, etc., et de rendre tout ça le plus crédible possible et ne pas faire une science-fiction plus magique, plus une SF de fantasy. Et voilà, donc ça c'était un peu pour l'univers, pour le lore comme on dit maintenant, mais ça nous faisait pas une histoire, quoi. Et donc ce qu'on s'est dit, c'est quel genre de personnage on va avoir, quel genre d'histoire on va avoir. Et un autre truc qui moi me manquait, c'était les histoires de détectives privés. J'avais l'impression qu'il n'y en avait plus trop au cinéma. C'était parti plutôt du côté des séries, mais comme je regardais plus de séries, je m'en suis pas rendu compte. Et donc on est parti là-dessus, et voilà. Et donc on a mélangé ces deux ces deux trucs-là. Ce qui est pratique avec les histoires de détectives privés, c'est qu'on a des personnages qui ont une mission, et donc on leur donne une mission à faire et il faut l'accomplir. Et donc il y a un moteur qui est effectivement extérieur, mais qui en plus a cet effet que j'aime bien très souvent, c'est qu'on entre par la petite lorgnette d'une mission anodine et qui finalement, généralement, finit sur un complot gigantesque. C'est un effet que j'aime beaucoup. Et je trouve que ça fonctionne bien avec la SF, avec ce côté justement galactique, ce côté vide spatial et crise existentielle potentielle que la SF peut apporter. Voilà, et puis aussi sur... après tu peux peut-être enchaîner parce que je suis en roue libre et je commence à débiter des mots que je ne maîtrise plus.
Non, juste pour répondre à la question sur le personnage d'Aline, au départ c'était un garçon et on était parti sur un type un peu dégingandé, maladroit, qui vivait chez sa mère et qui était détective privé sur Mars, et on est très vite on est parti sur cette histoire de détective aussi parce que c'est une bonne manière de visiter un lieu, parce que c'est des gens qui vont farfouiller partout dans les bas-fonds, qui vont interroger les riches, etc. Donc on s'est dit si on veut présenter un univers sous plein d'aspects, des détectives c'est malin. Et après il y a on a eu envie de faire un duo, et le personnage de Carlos est arrivé. Et c'est presque avec l'apparition du personnage de Carlos que le personnage d'Aline s'est construit, parce que dans notre tête Carlos c'était je sais pas s'il faut spoiler, faut pas spoiler, vous arrêtez. Alors, pas de spoiler,
non,
dans votre émission
tout le temps, nous spoiler, ouais, donc, c'est ton film, hein, c'est votre film, donc allez-y.
Donc voilà, on va spoiler,
vous, hein. c'est vous qui allez vous faire engueuler dans les commentaires.
Ouais, alors je vais essayer de pas spoiler. En tout cas, notre personnage principal au départ était un homme, puis on a trouvé ce personnage secondaire de Carlos, et on aimait beaucoup ce personnage, et du coup pour lui faire un buddy, on a été obligé de faire un personnage principal qui est devenu Aline. Voilà.
Ok, merci. Alors on parlait du lore justement, hein, qui a été construit, et c'est vrai qu'on a ce côté micro-macro avec l'enquête, mais un lore aussi riche, parce qu'il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de techno, il y a beaucoup de d'objets qui ont été inventés, qui ont été conçus. Comment est-ce que vous avez développé ce lore-là? Comment est-ce qu'on le crée?
Alors au scénario, c'est très facile. Et après, je vais les voir une fois qu'on a fini le scénario. Moi, ça y est, je suis en vacances et je gagne plus d'argent et je suis pauvre. Et eux, ils se mettent à bosser sur ce qu'on a écrit et...
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que dans le scénario, c'est il se met un objet dans l'oreille et voilà, c'est tout. Alors que nous, après, il faut designer l'objet. Il faut qu'on comprenne que cet objet, il permet la communication. Il faut qu'on comprenne que cet objet, c'est un objet organique et donc qu'il est un peu dégueu. Mais enfin voilà. Et donc et c'est vrai pour n'importe quel objet, les générations différentes de robots, pour les voitures, la logique de d'ingénierie qu'il y a derrière le système de locomotion des voitures, etc. Donc tout ça, c'est des trucs qu'on a pensé à plusieurs, évidemment, hein, c'est des couches, hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même des petits indices, même pour le système social de la ville, tout ça, c'est des règles qui sont quand même implicites dans le scénario, mais qu'après, on doit mettre en image pour que ça soit encore plus clair et compréhensible, sans avoir à exposer par le dialogue le fonctionnement de tout ça. Et donc ça, c'est un mix de design fait en pré-prod avec Michael Robert, qui est le directeur artistique du film, mais aussi ensuite réutiliser, réemployer et un peu parfois changer et improviser au storyboard pour parce qu'il y a aussi des objets qui sont pensés pour être filmés quasiment. Enfin, il y a des trucs. Je sais que le véhicule du périphérique, le véhicule de secours, a été aussi pensé à la mise en scène directement pour qu'il soit à la fois intéressant dans le cadre et en même temps qu'il ait l'air pratique à l'usage. Et avec ça, derrière, il y a encore des gens qu'on a engagés qui étaient méca designer et différentes personnes pour aussi distribuer les rôles et qu'on ait l'impression, comment dire, un designer allait être représenté quasiment une société qui fabrique tel ou tel objet et pas tel autre, pour donner une impression aussi de différence de style et de et de vie dans cette ville-là, quoi. Et pas qu'on ait l'impression que c'est la même personne qui a, ou la même société qui a tout designé et que, voilà, et donc de donner un peu de variété.
On a même rencontré, comme quand des gens ont lu le scénario, ils nous ont dit « Ah, mais vos personnages parlent en télépathie entre eux. » Et je crois qu'il y a une boîte qui travaille là-dessus. Et du coup, ils sont à San Francisco, il me semble. Et du coup, on a fait une vidéoconférence avec eux et on a discuté de... ils nous ont dit « Ah ouais, mais ça, dans 5 ans, tout le monde parlera par télépathie. » Donc visiblement, ce ne sera pas en 2200. Mais du coup, il nous a expliqué un peu... Je crois qu'il t'a envoyé d'ailleurs la tête de ses interfaces. Ils font des visions encore, ouais. Il m'a pas appelé dans mon sommeil, genre c'est moi. Mais oui, on a fait quand même des recherches sur ces trucs-là pour être un peu crédible quand même.
Oui, alors, en l'occurrence, on pourrait s'arrêter là et faire genre waouh, ouais, ils ont vraiment le bras long. En fait, on a eu juste une discussion et il y en a jamais eu plus, mais.
Sur ce truc spécifique.
Ouais, sur ce truc spécifique. Mais après,
ouais. Il y a tout un tas d'éléments sur lesquels vous avez quand même beaucoup travaillé dans la prospective de la SF, justement, ouais. Pour être dans ce que toi t'appelais la hard SF, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui sorte du cadre de on n'a pas besoin de l'expliquer, c'est les règles du cinéma et tout va bien, quoi. J'aimerais bien qu'on en parle un petit peu, du coup, parce que je sais qu'on en avait un peu parlé, toi et moi, à part. Il y a cette notion de comment aller habiter sur Mars, en fait, où est-ce qu'on irait, mais il y a peut-être encore d'autres éléments, je sais pas si tu veux développer sur ce point.
Si, bien sûr. Les tout premiers spécialistes qu'on a rencontrés, c'était des planétologues, c'était Sylvain Boulet et François Costard, que Laurent avait entendu, en tout cas,
sur France Culture.
Sur France Culture,
ouais, c'est ça. Il faisait une émission sur les météores parce que en plus d'être planétologue, c'est un geek fan de météores.
Et donc on le rencontre et la vérité c'est que donc il y a cette petite anecdote qui est que on était supposé ne rencontrer que Sylvain et dans les couloirs de son bureau on croise François Costard et il a le pag et lui dit bon tu veux pas venir là, il y a deux mecs qui veulent faire un film de SF, ils ont des questions sur Mars et tout, un film de SF. Et François Costard est là, oui bon super, vous voulez aller sur Mars, génial, ça veut dire que la Terre va être merdique, qu'on va devoir piquer toutes les ressources et ça va être encore les riches qui vont y être et les pauvres pendant ce temps-là. On est là, ouais, c'est exactement ça que par le film fait, ok, super, j'arrive. Et donc voilà, il a été emballé par le truc et c'est parti. Donc ils ont joué le jeu et on leur posait des questions sur des trucs de base, hein, genre c'est quoi la gravité sur Mars, la luminosité, le son, le nombre d'heures des journées, etc. Enfin, une année, c'est combien, etc. Et tout ça, c'est vrai que c'est des trucs qu'on peut trouver sur Wikipédia, j'allais dire, mais c'était bien aussi de discuter de ces trucs là avec eux et de voir comment ils réagissent et comment ils nous répondent sur ces trucs là mais au bout d'un moment, donc on en vient à vraiment ce qui nous intéresse pour de vrai aussi, c'est où est-ce qu'on habite, où est-ce qu'une c'est quoi le meilleur endroit sur Mars pour poser une première colonie, quoi, une première habitation, une première ville et tout. Et la vérité, c'est qu'ils y avaient jamais pensé. Jamais ça leur a traversé l'esprit.
C'était incroyable. Et vraiment, on les regarde et les deux se regardent comme ça. C'est vrai ou est-ce qu'on mettrait une base sur Mars? Ils sont jamais posé la question.
Non, c'est pas leur sujet, ils s'en foutent. Enfin, voilà. Et donc, eux, ils sont sur des études sur des millions, milliards d'années de l'évolution de la planète, voilà, son inclinaison vis-à-vis du Soleil au fil des milliards d'années. Enfin, bref.
Surtout, ils trouvent que c'est une super mauvaise idée.
Oui, c'est ça. Voilà. Donc, ça rejoint le principe de début qui était que, oui, bon. Mais en l'occurrence, ouais, ils réfléchissent un peu, ils nous sortent un planisphère 3D, hyper. Enfin, c'est Google Earth, mais martien, quoi. Donc tout est cartographié, tout est déjà nommé parfaitement et tout. Il n'y a que des noms de geeks partout sur la planète, quoi. Et donc le pire de tous, c'est Noctis Labyrinthus, et c'est là qu'ils nous disent faut aller là, quoi. Et donc je dis le pire de tous, mais vraiment quand ils nous sortent Noctis Labyrinthus, je me dis mais
ils sont beaux les noms sur Mars.
Oui, mais je me disais...
Où est le mage?
Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Genre, ça, ok, donc ça, c'est l'endroit où habite le sorcier. Enfin, on est en plein jeu de rôle. Et je me dis, ok, notre film, ça va s'appeler comme ça, l'endroit, Noctis Labyrinthus. Ok, bon. Et en fait, donc, on l'a appelé, effectivement, mais juste Noctis, on a rétréci le truc, parce qu'on a respecté la science. Et en fait, l'endroit, c'est donc un ancien réseau de fleuves de lave souterrains qui se sont effondrés et qui ont été aussi bombardés par des astéroïdes. Donc, c'est un mélange de falaises, de cratères, de trucs comme ça. Et donc, l'endroit est, selon eux, parfait, parce que c'est donc une cuvette avec plein de murs et tout, qui font que un dôme s'y installe beaucoup plus simplement. Il n'y a qu'à ajouter un plafond, en gros, sur les murs déjà préexistants sur la planète. Et avant ça, de toute façon, parce que le dôme sert aussi à non seulement garder une atmosphère viable, mais aussi à se protéger des radiations. Et avant que le dôme ne soit installé, il faut évidemment que les premiers humains se protègent déjà des radiations. Et donc le mieux, c'est de vivre en troglodyte, dans des grottes et à flanc de falaise. Ça paraît idéal. Et donc, on a tiré le fil de cette idée-là, c'est-à-dire qu'on se dit les premiers habitants sont troglodytes, et donc le plafond, pendant ce temps-là, il s'installe, et certainement il est installé par des robots, et c'est même là que nous vient le principe de dire il y aura plein de robots dans ce film, en fait, puisqu'ils ont été là pour construire toute cette ville, et après quoi, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces robots? Il faut bien les traiter dans notre histoire. Ça, c'est un des fils qu'on tire, mais du coup, on se dit, l'ancienne ville de Noctis, elle est souterraine, et c'est ça qu'on voit dans le film, on voit des souterrains comme ça, y a un personnage qui l'évoque d'ailleurs, que c'était les premiers colons habitaient là, il n'aurait pas aimé habiter là, etc. Et
il y a de l'eau aussi.
Ouais.
Il y a de l'eau, et je crois qu'il y a un delta de température qui n'est pas extrême, donc c'est vraiment une zone qui est favorable pour...
Et après quoi, avec Michael, on réfléchissait à, ça veut dire que pendant qu'ils construisent le dôme, la ville peut s'avancer progressivement. Et donc on s'est imaginé que plus on s'éloigne des falaises, plus plus on arrive dans les quartiers riches, en fait, et plus on est au bord des falaises, plus on est pauvre. Et enfin voilà quoi, c'est une espèce de truc qui est un petit peu pensé comme ça, et puis après on tire le fil, c'est-à-dire que s'il y a un périph, il va être à creuser dans les falaises, etc.
Mais dans l'écriture, en fait, par exemple, du scénar, parce que c'est un scénar finalement assez dense, mais assez ramassé en termes de c'est une heure et demie de film. Mais du coup, ça développe beaucoup, beaucoup de thématiques et beaucoup de choses que vous raccrochez au récit. Mais dans ce scénar-là, par exemple, est-ce que vous écrivez à côté une bible, en gros, de cet univers, pour vous, en fait, pour savoir, en fait, si tout va être cohérent, si tout, finalement, le récit narratif va rentrer dans cet univers-là et rester, finalement, entre guillemets... dans le réalisme que vous recherchez. Quand je dis réalisme, évidemment, c'est un bien grand mot, mais dans le, comment dire, là on est précis, et justement il n'y a pas quelque chose de magique qui vient s'immiscer là-dedans, est-ce qu'il y a cette logique? On sait que Cameron, par exemple, James Cameron, il a littéralement designé les planètes d'Avatar pour, comment dire, être sûr que l'oxygène c'est la bonne, enfin, etc., etc. Donc est-ce qu'il y a une logique un peu comme ça, sans forcément aller aussi loin que lui, mais pour vous lancer dans l'écriture derrière, ou est-ce que...
On a écrit un document qui décrit l'univers, mais il est assez succinct quand même. Mais en fait, en parlant, on était d'accord sur le niveau technologique et sur la cohérence globale de comment ça fonctionnait. Et on savait aussi que c'était un monde extrêmement libéral, où les gouvernements, on n'en parle même pas. Il n'y a pas de gouvernement. La police, a priori, c'est privé. Donc on était d'accord, c'est-à-dire qu'il y avait un embryon de film avant Mars Express et qui se passait dans le même univers, donc on était déjà plus ou moins d'accord sur la logique de cet univers.
Oui, adjoint au scénario aussi, on avait écrit un genre de glossaire pour aider les lecteurs et les lectrices, parce que on s'est dit, si on doit commencer à décrire tous les objets et toutes les règles du film au milieu du scénario, bah le principe classique du scénario qui veut que une page égale une minute, bon, il allait exploser, qu'on allait avoir un document de 300 pages, et donc il y avait beaucoup d'astérisques pour renvoyer à, pour ceux qui n'auraient pas même des termes de SF classiques, hein, comme parler d'augmenter, ça c'était expliqué aussi, mais avec des choses un peu aussi plus propres au film et qu'on a dû inventer à l'occasion. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, des règles de l'univers qu'on n'avait plus en tête que... Enfin, on n'a pas écrit une encyclopédie, on n'a pas fait le Silmarillion du film, quoi. Donc, moi, je ne suis pas non plus complètement... convaincu par l'idée qu'il faille absolument faire tout un descriptif total. Il y avait les grandes lignes en gros, avec quand même l'ouverture possible de pouvoir improviser derrière en termes de design et laisser une certaine marge de manœuvre aux équipes ouais. qui peuvent apporter des idées avec un spectre ouvert mais pas non plus complètement, c'est-à-dire voilà, il y avait un cadre dans lequel on pouvait encore s'amuser et apporter des nouvelles idées voilà, mais ouais, y a des moments où on sentait que non, là on sort du truc, c'est pas logique, etc. Mais moi, j'aime bien aussi quand même quand il y a un peu de hors-champ et que même les spectateurs n'ont pas absolument toutes les réponses et nous-mêmes pas non plus, mais cette impression de quand même de cohérence et de réel, si elle est maintenue, moi ça me va.
Et je pense même que c'est un travers qu'on peut avoir facilement de se passionner pour son univers, de le décrire d'une manière effectivement encyclopédique, et finalement que le film devienne une visite de cet univers et que l'histoire passe au second plan, et que de vraiment de se passionner pour son univers et moins s'intéresser à sa propre à l'histoire qu'on est en train de raconter. Et ce que tu me dis sur Cameron, j'aime beaucoup Cameron, mais je pense que c'est un travers dans lequel il est tombé dans Avatar. Il s'est vraiment passionné pour son univers quand même.
On va pas être d'accord. Enfin, s'est passionné pour son univers de tout à fait, mais voilà. Mais non, mais oui. Après, je pensais à ça aussi parce qu'il y a effectivement il y a l'idée d'en fait de pouvoir nourrir les équipes avec quelque chose de précis. Ouais. C'est pour ça aussi que je vous posais cette question là, même si enfin, Cameron, c'est des moyens illimités. Oui, là, oui. On est dans une autre, logique.
Ouais, voilà, c'est ça. Moi, il y a aussi beaucoup de, choses que j'ai résolues au storyboard. Hein. Voilà, comme j'en ai fait une grosse partie, j'ai pas fait l'intégrale du storyboard. J'ai été aidé par les chefs animes Nils Robin et Anne Galvez qui se sont greffés en fin de storyboard. Mais il y avait aussi Jérôme Perilla. Et c'est le problème de se lancer dans les citations des gens, c'est que d'un seul coup, ah non, il en manque un. J'ai oublié son nom.
Je vous aime tous.
Oui, bien sûr. Florent Remise, c'est bon. Yeah. Qui ont terminé en catimini la fin du film avec moi. C'est que voilà, il y a plein de choses qu'on a déjà résolues là en version, disons simplifiée, puisque un storyboard c'est quand même synthétisé quand même en termes de graphisme et tout. Mais déjà, on pouvait élaguer et lancer plein de pistes comme ça qui pouvaient encore mieux aider au design derrière. Voilà. Donc en fait, c'est quand même des couches successives qui viennent à la fois esquisser les idées et leur donner du corps, et en même temps, au bout d'un moment, enfin, plus on avance, plus ça se précise, et plus voilà. Et c'est vraiment le principe à l'échelle globale, mais de comment on fait une animation par ailleurs. Hein. C'est d'abord un rough, puis ensuite un deuxième, c'est les poses clés, on fait les intervalles, et puis finalement après on clean tout, puis on a un dessin propre et qui donne l'illusion du mouvement. Ben, presque la manière de bâtir cet univers a été un peu ça, mais à l'échelle du design et de sa construction globale. Pardon, vas-y.
Non, ouais, je t'en prie.
J'avais rien d'autre à dire. J'étais en mode tunnel.
Je l'ai senti.
Ouais, c'est ça, t'as bien fait. Tu es un pro.
Non, j'aimerais bien prendre juste un exemple précis sur ce dont on est en train de parler, pour que ceux qui nous écoutent comprennent un petit peu. Il y a un moment, il y a une poursuite de voiture, il y a un accident de voiture, qui est très bien d'ailleurs, la scène est super. Et puis au moment où la voiture est accidentée, que les secours arrivent, il y a une partie de la chaussée qui se colore en rouge avec des cases, qui est une idée forcément très visuelle. Et c'est un des plaisirs du film qu'on retrouve. C'est très naturel la façon dont c'est fait, c'est jamais mis en avant, mais c'est totalement intégré à l'univers et ça lui donne une force extraordinaire, je trouve. Et je voulais savoir justement si, par exemple, l'idée de cette chaussée, elle est dans le scénario. Ou est-ce que dans le scénario, il y a juste, ils ont un accident de voiture qui amène l'idée visuelle de la chaussée accidentée, comment c'est travaillé, etc. Parce que je pense que ce qui se passe sur une idée comme ça, c'est passé sur plein d'endroits dans le film.
Dans mon souvenir, c'est pas au scénario. C'est-à-dire, au scénario, le flux des voitures se dévie naturellement puisque c'est des voitures autopilotées. Et il y a deux trucs vraiment, moi quand j'ai vu les animatiques, je les ai découverts. Il y a effectivement cette histoire de la route qui souligne la zone en accidentée, et le plop des robots qui débarquent. Ça, tu m'as scié avec ça.
Mais j'étais plus sûr du... Tant mieux que tu te rappelles mieux que moi, parce que j'étais plus sûr de si c'était au scénar ou quoi. Mais les cases, elles viennent... Enfin, l'idée visuelle des cases vient de Shining Force, si ça vous dit quelque chose, sur Mega Drive. Et ce type de jeu, ce type de jeu vidéo de tactics, où vous voyez, très ouais. japonais, où tu sélectionnes une unité, tu vas lui dire... tu sais quelle zone d'action t'as, et la portée, et où tu peux attaquer, etc.
Ouais,
et
donc, tour par tour.
C'est ça. Et donc ce zonage par case avec des dégradés à l'intérieur, je me suis dit tiens, mais c'est un truc qui est dans l'inconscient collectif des gens, enfin en tout cas certainement du public qui va aller voir ce film, donc je vais le réutiliser là pour marquer cette zone accidentée, mais en fait voilà, c'est vraiment du tour par tour.
Mais ça tu le fais au storyboard?
Et ça je l'ai fait au storyboard, ouais. Je me suis dit il faut un truc qui marque, et puis ça donne une impression de route, un peu comme de toute façon on voit que les murs ils peuvent diffuser des écrans, enfin il y a plein de les vitres, etc. Il y a comme une peinture qui laisse passer un flux électrique certainement, et donc je me suis dit mais même la route, en fait tout, allez vas-y c'est parti, c'est une ville faite en télévision quoi.
Parce que bon, avec des idées comme ça, vous êtes des extraterrestres dans le cinéma français quand même. Arriver à traduire de manière visuelle des idées simples, on peut pas dire que ça soit très
pas pour longtemps à mon avis.
Hein?
Pas pour longtemps.
Ouais.
Non, je pense vraiment qu'il y a une génération qui arrive là.
Ouais, mais profite.
Oui, je profite.
Prends le truc.
C'est un compliment, monsieur. Ouais, merci.
Profite, non, d'autant que c'est pas toi qui as eu l'idée, mais profite. Enfin, bref.
Non, mais je pense qu'il y a une nouvelle génération qui arrive et qui a tous ces codes. Heureusement, enfin.
Ouais.
Parler justement de cette référence à un jeu vidéo, c'est une super transition, parce que moi, je voulais vous poser la question de ce qui vous a influencé, ce qui vous a inspiré. À la fois dans le ciné, mais aussi dans les jeux vidéo, parce qu'on sent que ça aussi, ça a joué.
Et surtout, pourquoi, monsieur Perrin, pourquoi Blade Runner vous emmerde? Il faut le dire. Ah non, mais c'est vrai que tout le monde vous cite Blade Runner, parce que la question de Clément, c'est tout à fait pertinente, mais on va juste enlever directement les deux grosses références que tout le monde vous balance, qui sont Blade Runner et Ghost in the Shell. Et en plus, vous avez un rapport chacun aux films qui sont un peu différents, donc c'est pas vraiment... totalement vos références.
Et Alien, Aline, c'est fait exprès?
Je crois pas.
Bah si, moi je trouvais ça bien, ouais.
Oh, t'y avais pensé.
Si, parce qu'en plus il y a ce truc un petit peu de personnage qui est un peu perdu dans ce monde-là, qui est pas vraiment intégré en plus.
Je crois qu'on avait pensé à Alice au début.
Non, tu confonds, ça c'est Télérama qui a fait une erreur dans leur critique là, l'ont appelé Alice tout le long du truc. Mais après on a une bonne note, alors ça va. Mais ce qui est bizarre d'ailleurs d'avoir une bonne note dans Télérama avec un film comme ça, je sais pas comment le prendre. Je l'ai dit à la journaliste, hein, j'ai fait genre ouais. Bizarre. Normalement si ça avait été bien, ils auraient dû faire la gueule. Mais
ça dépend, c'est un peu aléatoire je crois.
Je sais pas.
Il n'y a plus le bonhomme qui fait la gueule non plus dans Télérama.
Déjà c'est une madame.
Ouais. Ah c'est une madame. Ouais.
Bon, tu avais une question. Les jeux vidéo ou Blade Runner, qu'est-ce que je réponds à quoi?
Les deux, monsieur.
Les jeux vidéo, ouais, j'adore les jeux vidéo. la question c'était le rapport aux jeux vidéo, c'était... et les références.
Ouais, est-ce que vous avez des inspirations issues du monde du jeu vidéo? En plus, toi, t'as travaillé dans le secteur aussi, donc...
On pensait pas à des jeux vidéo précis. Je sais que j'ai eu des images de Syndicate, qui est un vieux jeu Bullfrog pour les quinquagénaires.
Peter Molineux, hein, je crois.
Peter Molineux, ouais. Exactement. J'avais au départ des images de Syndicate, mais je crois pas qu'il en reste grand-chose dans le film. En fait, on pensait jeux vidéo souvent en référence à des scènes d'action ou des manières de visualiser les choses. Et moi, quand je vois le film en tant que spectateur, il y a une scène où je me dis « Ok, ça vient d'un jeu vidéo. » C'est, je vais un tout petit peu spoiler, à un moment, il y a le personnage de June qui sort de cette machine à scanner le cerveau, et elle a un souvenir comme ça, et c'est en point de vue subjectif, on dirait un Doom-like. Et elle voit ses mains sont dans le champ, et on est vraiment à fond dans son point de vue. Et là, vraiment, pour moi, c'est une image de jeu vidéo. Donc c'était plus des images ou des histoires d'interface, des trucs comme ça.
C'est ce que j'allais dire. En fait, il y a aussi beaucoup d'utilisation de conventions de jeux vidéo, notamment dans les interfaces, dans les flingues, notamment. C'est des raccourcis narratifs aussi qu'on utilise. Aline, elle a à un moment donné une espèce de super fusil et sur lequel il y a un petit écran qui lui indique le nombre de balles qui lui reste et de type d'arme, parce que c'est un flingue avec multi. Enfin, il y a des roquettes et des.
Ça va exister, ça, voilà, c'est sûr.
Et bref, en tout cas, plutôt que de la faire sortir le chargeur, regarder combien il lui reste de balles dedans et le remettre, ce qui aurait fait des animes en plus, beaucoup de dessins, bah tout simplement il y a un écran comme dans Halo ou comme dans je sais pas quel.
C'était au scénario
en plus, ouais.
C'est pas voilà. Half-Life 2.
Half-Life aussi, ouais. En fait, jeux, dans beaucoup de FPS en réalité, où c'est une manière de visualiser les munitions qui te restent ou quoi, et de l'intégrer à la fois dans le jeu et sous tes yeux sans.
Champ de vision, ouais.
Voilà, exactement. Donc ce genre de choses, mais après, il y a aussi un rapport au jeu qui est un petit peu plus souterrain, du moins à mon avis pour les zoomers, mais c'est que il y a beaucoup d'hommages à d'anciens créateurs et de créatrices de jeux vidéo. En particulier de créatrices, parce que une manière qu'on a simplement de trouver des noms, parce qu'on doit toujours nommer des personnages, et au bout d'un moment on n'a plus d'idées, on ne sait plus comment appeler, genre Micheline Dupont, bon ça va,
c'est super. C'est un cauchemar, c'est une perte de temps horrible.
Oui, c'est ça.
On se regarde comme ça.
Et... Non, ça ne fait pas vrai, on dirait pas une vraie personne qui existe, etc. Bref, et donc au bout d'un moment, on décide d'un champ lexical dans lequel on va piocher des noms, et là on s'est arrêté sur les créateurs et créatrices de jeux vidéo. Et en fait, pour même encore resserrer le champ des possibles, on a été chercher les femmes du jeu vidéo, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et donc, c'était encore plus rapide de trouver.
Ça nous imposait des noms.
Et puis, ça nous semblait être une manière aussi de les mettre en avant. Et, voilà. Et donc, c'est pour ça que Roberta Williams s'appelle Roberta Williams. C'est pour ça qu'il y a une espèce de machine qui a comme nom de marque Tramis, comme Muriel Tramis. Il y a plein
Chahi
de...
aussi.
Il y a Eric Chahi qui est devenu une rue. C'est devenu une rue, voilà.
La mérite.
Ouais, ouais, voilà. Bon bref, voilà, il y a plein de petits trucs comme ça, il y a des petites croquettes de jeux vidéo.
World, hein, pour,
c'est ça,
pour,
ouais. Et voilà, et...
Oh, ici, il y a... Ah oui, mais ça spoil.
Mais vas-y.
Sans spoiler, il y a une séquence qui a été faite par des demo makers.
Oui, bien sûr. Mais c'est pas exactement jeu vidéo, justement. C'est l'occasion que tu prends d'en parler. Mais oui, on a aussi recruté un duo de demo makers. Et donc, la scène démo, c'est un truc qui est très ancien. Je vais utiliser l'analogie et la manière simple de Alex Pilote de raconter ça. C'est que la scène démo et les demo makers, c'était un petit peu sur ordinateur l'équivalent des taggers, mais numériques. C'est-à-dire, c'est des clans qui pouvaient même presque affronter, on va dire, mais à coup de comment dire, de démonstrations techniques et artistiques sur ordinateur. Ça a commencé sur C64, ça a continué sur Amiga, ça a été très fort à cette époque-là, ça a continué après bien sûr sur PC encore aujourd'hui, mais c'est un truc très underground et très nerd. Enfin, tu donnes ligne de la tête, tu connais.
Oui.
D'accord.
Et c'était, ils mettaient leur signature sur les jeux pirates. Et comme
notamment, ouais.
Nous, on achetait nos jeux, mais ceux qui avaient des jeux pirates, ils avaient la signature du pirate. Et c'était la signature, c'était une démo.
Voilà.
Et effectivement, Jérémy a contacté des demo makers pour faire une des séquences du film.
Oui, pour une séquence très spécifique du film, voilà. Donc même pas la peine de la décrire. Enfin, en tout cas, c'est une séquence un peu plus abstraite que le reste. Et voilà. Donc oui, il y a tout un rapport avec un imaginaire quand même du jeu vidéo et de l'informatique qui a été exploité dans le film. Et en réalité, puisqu'on peut maintenant glisser tout doucement vers les références SF, c'est un peu le même rapport qu'on a eu avec les références de science-fiction qu'avec celles du jeu vidéo. C'est que c'est plus des... comment dire, on les a pas cherchés à tout prix, on n'a pas cherché à faire du coup de coude, du clin d'œil aux spectateurs et spectatrices. C'était plus oui, les grands thèmes, c'est pour ça que après quand les spectateurs voient enfin aussi Blade Runner ou Ghost in the Shell, alors c'est certainement vrai, mais parce que c'est des thématiques qu'on a en commun avec ces œuvres là je pense, et aussi parce que je les ai vues d'une manière, enfin de façon innombrable, enfin je les ai vues énormément. pas tant que ça Blade Runner. J'essaye tous les 5 ans et à chaque fois je m'endors à peu près au même endroit. Enfin, on en a parlé plus tôt. Dès qu'il y a les
quand
petits,
ça t'emmerde, c'est ça que tu veux dire.
Voilà, c'est ça. Au moment où ça m'emmerde, je m'endors. C'est-à-dire au bout de 45
minutes.
Essayez
Blade Runner 2049.
Oui, alors là, lui, je l'ai. Alors, je lui ai fait l'insigne honneur de le regarder en screener. C'est ce que je fais avec les films que je sens pas ou que j'ai envie de punir. Alors, en réalité, c'est moi que je punis, je suis complètement fou. Mais c'est ça, j'ai vu les derniers Star Wars comme ça, en images dégueulasses, avec un son horrible, parce que filmé dans un cinéma. Et je me dis, tiens, film, je te regarde mal. C'est ma façon de faire. Et bref, et donc lui, je l'ai vu comme ça, et il m'a un peu fait chier, ouais.
Non mais tu peux pas comparer les deux.
Non, non, enfin, non, bon, mais...
pardon pas
si,
là-dessus.
Si, on peut comparer les deux, il y a Atari dans les deux.
Et il y a Harrison Ford aussi.
Oui, non, bien sûr.
Moi je trouve que les spectateurs ont raison de vous faire, enfin de citer ces références-là. Moi je l'ai ressenti aussi au début du film. Comment est-ce qu'on peut rentrer dans le film sans penser à Ghost in the Shell et Blade Runner, ça me paraît un peu difficile. C'est une fois qu'on est rentré dans le film qu'on se dit « Ah mais ça y est, on a oublié Ghost in the Shell et Blade Runner, on est dans Mars Express ». Mais vous faites aucune référence précise à ces films-là, mais que le spectateur y pense me semble plutôt une bonne porte d'entrée. Vaut mieux ça que se dire « Tiens, je suis dans Independence Day ».
Ouais.
Il deux, mais il aime voilà. beaucoup aussi. Oui. Il l'a regardé en screener aussi, c'est pour ça qu'il l'a regardé en screener dégueulasse.
C'est vrai. Voilà. Et après, je suis allé le rechercher en meilleure qualité parce que, quand même, il fallait lui donner une seconde chance. Non, non, mais en plus, je troll un peu, je fais exprès d'exagérer mon rapport à Blade Runner. La réalité, c'est que, effectivement, c'est un jalon de la SF indéniable, c'est un film important et tout. J'adore l'esthétique et la musique du film, mais c'est vrai que son rythme, moi, me berce et au bout d'un moment, je m'endors et vers la fin, voilà, je suis plus trop vaillant. Mais voilà. Et en plus j'entends bien que c'est normal de penser à ces deux films là et c'est vaut mieux ces films là que effectivement Independence Day. C'est en fait c'est juste que à force d'en entendre parler, j'ai l'impression qu'on alors que c'est à mon sens une manière de dire c'est dans ce registre là que se situe Mars Express et donc en fait je devrais être heureux, mais à force d'entendre parler de ça, j'ai l'impression que les gens disent t'as copié-collé quoi. Et ça, je suis un peu genre ah, je deviens parano, mais bon voilà, je me raisonne évidemment.
Mais la vérité, c'est qu'on ne pensait à aucun de ces deux films en écrivant. On ne s'est pas dit qu'on va faire comme, ou même on va essayer de ne pas faire comme. Cela dit, on a pensé Mars aussi, une planète qui était où on avait une belle vue, où on pouvait respirer, etc. Parce qu'on ne voulait pas faire cet univers qui est dans Blade Runner, mais qui est dans plein de films cyberpunk, où c'est des villes qui sont oppressantes, avec des gratte-ciel, tout est gris et dégoulinant.
Bah si, même en fait, carrément, c'est-à-dire que sur Terre, on voulait que ça ressemble à Blade Runner exprès, et qu'on s'en aille de ça, parce qu'on avait cette impression, moi, que les visions du futur étaient toujours basées sur ce modèle indépassable, a priori. Je me souviens d'ailleurs que quand Ghost in the Shell est sorti en France, bah, ça citait Blade Runner à tout va, donc c'est aussi... Mon espoir maintenant, c'est de me dire bon bah peut-être au bout d'un moment on va arrêter de le dire trop sur Mars Express, mais je vais aussi arrêter de parler de ça parce qu'on va croire que j'en veux vraiment à ces films ou quoi, alors que bon, pour de vrai je les aime bien. La vérité c'est que moi j'adore Ghost in the Shell, Laurent adore Blade Runner et le truc s'inverse, c'est-à-dire que j'ai pas une affection délirante pour Blade Runner et lui l'aime pas trop.
Je l'ai revu la semaine dernière du coup pour être sûr.
Ouais.
Ghost in the Shell.
Ghost in the Shell, exactement. Oui, alors je trouve plein de défauts. En fait, c'est horrible. Je veux dire,
on se retrouve à faire la critique de ce film.
Ouais, exactement.
Bon, changeons de sujet.
Ouais, c'est ça. Mais je trouve pas l'histoire géniale.
Ghost in the Shell m'emmerde.
Ouais, non, 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 je trouve pas l'histoire. L'histoire de Ghost in the Shell, je la trouve vraiment pas terrible, pas très bien ficelée. Tout.
Bon, voilà. En fait, un des secrets qu'il y a entre nous, c'est qu'on n'est pas toujours
d'accord.
Et il y a quelque part un mélange bizarre à une dynamique qui fait qu'on trouve des idées intermédiaires ou pas intermédiaires, mais qui arrivent à nous réconcilier. Disons, et voilà, et quelque part on trouve un équilibre comme ça.
Il adore dire que moi je suis trop grossier et lui il est trop subtil. Et en fait, je sais pas, je crois que c'est moi qui aime bien le dire aussi.
Oui, c'est toi. Ouais.
Et c'est vrai que je l'empêche d'être trop subtil, il m'empêche d'être trop grossier. Il y a une personne qui est assise ici et qui est super.
Mais du coup, en fait, même dans le jeu des références, il y a des trucs que vous évitez sciemment, je pense. C'est-à-dire que, comme vous dites que vous n'avez pas pensé à Blade Runner ou à Ghost in the Shell en écrivant, il y a l'idée, en fait, d'aller sur Mars, c'est qu'il n'y a même pas vraiment, en fait, par exemple, de vista à la Total Recall ou ce genre de truc. J'ai l'impression que c'est presque conscient, vous vous êtes dit non. Si les gens attendent ce genre de fantasme-là, en fait, dans le film, il n'y en aura pas parce que ça a été fait, en fait, au préalable et ça va forcément nous mettre dans la même catégorie.
Oui, oui, en fait, il y a des trucs vraiment... C'est-à-dire que je reviens un peu quand même en arrière et un peu plus calme, mais je n'étais pas énervé. Mais le fait est qu'on s'est laissé libre cours à l'écriture, etc. Et la vérité, c'est que tous ces films de SF, Demolition Man, Total Recall, Minority Report, tout ça, on a ça dans le sang. On les a vus, on les a revus, on les adore et tout. Et en fait, on les régurgite assez naturellement. Et il y a quand même des moments où, effectivement, on s'est dit genre « Ah non, là, ça y fait vraiment trop penser. » Et puis finalement, ça apporte pas grand-chose dans la caractérisation des personnages ou de cet univers, etc. Et donc ça, on le met pas. Et il y a des moments où on ne peut pas ne pas penser à Terminator 2, je pense. Je m'en suis rendu compte...
Une scène spécifique, ouais.
Ouais, je m'en suis rendu compte après coup. Parce que sur le coup, on a écrit ça parce que ça nous semblait être le plus efficace. Et après, j'étais un peu gêné. Et puis, je me suis dit, ouais, mais en même temps, ça dit quelque chose de ce personnage. C'est un moyen, encore, comme je disais avec les interfaces de jeux vidéo, c'est un raccourci pour caractériser ce personnage donc, qui a une lame dans le bras, qui, en plus, n'est pas un robot, mais est associé dans l'imaginaire cinéphilique à quelque chose de mécanique et avec lequel on n'a aucune discussion possible. Et donc, ça a participé des thématiques du film qui sont celles de la confusion entre le naturel, l'artificiel et le rapport à tout ça. Voilà, donc pour moi, ça avait du sens à ce moment-là de pourquoi pas faire cette référence et qu'elle soit consciente, même si elle l'est devenue dans un deuxième temps.
Je vais enfoncer un clou dans mon cercueil. Il y a un film que vraiment j'aime pas du tout de science-fiction qui s'appelle District 9. Et je trouve que c'est un film très intéressant pour faire la part entre utiliser ses influences et faire des copier-coller complètement honteux. Et voilà, ce monsieur, il a pris des scènes des films qu'il aimait bien, il les a foutues dans son film, il les cite même pas dans une interview, ça me rend fou. On est d'accord sur rien tous les deux.
Non, mais vas-y.
Et voilà, après, oui, je pense qu'on peut pas créer, on est toujours sur les épaules de plein d'autres gens qui étaient là avant nous.
Laurent, enfin,
mais oui,
arrête.
On est d'accord, exceptionnellement on est d'accord.
Non, mais alors, ceci étant dit, au jeu des références comme ça, parce que tu l'as dit quand même en début d'émission, il y a effectivement le côté SF, mais il y a aussi effectivement le côté, comment dire, film noir, polar hardboiled, etc., etc. Et là, c'est aussi, ça vous charriez quand même encore un autre type d'univers. Et j'imagine qu'on vous parle beaucoup de Blade Runner aussi à cause de ça, cause du côté détective privé, film noir, version futuriste et tout. Mais moi, j'aimerais revenir un peu à la source de ces éléments-là. Enfin, j'imagine que vous avez un bagage cinéphilique derrière là-dedans et des références en fait qui sont pas forcément celles qu'on vous demande en premier lieu. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans où vous vous êtes dit tiens, dans ce récit-là, je peux transposer ça en SF ou...
Le détective en SF, c'est quasiment tous les bouquins de cyberpunk, c'est des histoires de détectives. Hein. Donc c'est pas Blade Runner qui a inventé ça. Hein. Après, le cinéphile, c'est lui.
Ouais, merci de me refiler la patate chaude. Mais non, mais la vérité, c'est que je pense aussi les gens pensent pas nécessairement aux films noirs quand ils nous demandent les refs, parce que je crois que ça serait comme si on avait fait un western et qu'on nous demandait c'est quoi les refs de votre western. Bon bah parce que quoi ? Parce que dans les westerns, il y a des cowboys et puis c'est toujours un peu le même design. Enfin, je fais ça vite, mais alors qu'en SF, il y a des films très marqués visuellement et voilà. Et donc je pense que c'est un peu pareil avec les archétypes du détective privé, c'est souvent un peu les mêmes, et donc on se dit oui bon les détectives là, ok je vois, mais effectivement ce mélange privé plus SF, bah oui, et Ghost in the Shell est pas loin non plus, vu que c'est aussi une enquêtrice, même si c'est pas une détective privée mais une flic, enfin voilà.
C'est pas la même esthétique tout de même.
Non, bien sûr, mais toujours est-il que oui le film noir, bah en fait il y a vraiment un film qui nous a inspiré, enfin qui moi m'a inspiré et qui a peut-être un peu inattendu, mais et je m'en suis pas rendu compte tout de suite, c'est Qui veut la peau de Roger Rabbit, en fait. Il y a ce côté film noir plus toon, et nous c'est film noir plus robot. Deux techniques d'animation dans, enfin c'est-à-dire prise de vue réelle pour Roger Rabbit et animation 2D, et nous c'est animation 2D plus animation 3D pour distinguer les natures de personnages. Voilà, donc au final, pareil, une histoire de, alors la classique, hein, c'est Chinatown, la rêve dans les deux cas, c'est ce côté, comme je le disais plus tôt, une aventure, enfin une mission qui est une disparition, ou alors suivre, dans le cas de Roger Rabbit et Chinatown, suivre une femme parce que son mari pense qu'elle le trompe et tout, puis finalement ça finit en complot immobilier dans tout Los Angeles, voilà. Bon, nous c'est plus système, ouais voilà, c'est plus système solaire, mais voilà, c'était une des grandes refs finalement dont on s'est pas rendu compte tout de suite, mais évidemment donc Chinatown, le privé en quatrième vitesse, et aussi pas mal de films de thriller politique des années 70, ouais, Conversation secrète, Blowout, alors qui est des années 80, mais voilà, c'est cette queue de comète là, Les Trois Jours du Condor, enfin voilà, encore une fois, ces personnages qui sont eux pas vraiment des détectives, qui sont plus des techniciens généralement, ou des journalistes éventuellement, ou comme Parallax View, mais qui pareil entrent dans un tout petit truc, et puis encore une fois ça finit en complot où on maîtrise plus rien, tout est beaucoup trop grand par rapport au point de départ. Et donc c'est un peu ça aussi qui...
De Palma aussi.
Oui, c'est ça, Blowout. Ouais.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mais c'est vrai que en fait je pensais à ça parce qu'il y a aussi bon, il y a la source littéraire, il y a tous ces trucs là mais c'est vrai que je me demandais aussi par rapport à moi je trouve qu'il y a une limpidité en fait dans le film, pour l'avoir vu deux fois, qui est quand même hyper là aussi, comme disait Vincent, étonnante en fait finalement dans le cinéma français.
Est-ce que ça devient limpide la deuxième fois?
Oui, beaucoup. Mais ouais, mais c'est ça le truc, c'est que et le jeu du bon, déjà la SF en gros. Bon, moi, on a le même ADN en fait. Finalement, on connaît les mêmes films et on suit les mêmes choses. Donc autour de ce micro, c'est pas trop un problème. Je pensais plutôt en fait pour les spectateurs en fait, si l'idée en fait du détective privé et de ce prisme-là qui est très codifié, qui est très spécifique, était pour vous une bonne porte d'entrée. C'est-à-dire vraiment pour vous dire, avec ça, je peux déployer l'univers. Et en faisant ça. Il y a quand même aussi l'idée, parce que vous êtes des cinéphiles et que vous aimez peut-être, toi moins j'ai l'impression, t'as l'air de... Non mais...
On veut parler cinéma.
Non, voilà. Non mais il y a l'idée que quand tu te bouffes un bon Chandler, un truc comme ça, enfin un Houston des années 40 et tout, le des fois le scénar il est... Faut arriver à suivre la manipulation.
Oui, Chinatown. Voilà. Je sais pas si on peut comprendre l'histoire de Chinatown à la première vision. C'est hyper compliqué.
Et surtout de le repitcher derrière. Bon, c'est courage. Ça, ouais. Mais ça, c'est un truc que j'aime bien et quand même qu'on aime bien aussi tous les deux, et qui est commun quand même à certains films de SF et à certains films ou histoires, hein, romans ou quoi, de romans noirs. C'est que dans les deux cas, c'est souvent un peu nébuleux. Ça peut être nébuleux, surtout pour des néophytes ou quoi. Et ça, c'est aussi un effet que j'aime bien, c'est-à-dire le côté t'es perdu au bout d'un moment, tu comprends plus, et puis cet effet, si c'est bien fait, l'écrivain, l'auteur ou quoi, te rattrape et puis te repère, enfin c'est aussi un jeu de fausses pistes qui est très agréable, je trouve, et le fait que ces deux genres pour moi ont ça en commun, entre autres, de les mélanger et de laisser les spectateurs se débrouiller avec comprendre l'univers SF en même temps qu'au milieu de ça deux personnages essayent de trouver, de comprendre une vérité cachée derrière un mystère, ben je trouve que ça fait un bel effet de poupée russe, quoi, pour le spectateur. Et un jeu de pistes à différents niveaux.
C'était ma plus grande angoisse sur le film, c'est qu'en écrivant le scénario, à chaque version, chaque nouvelle version, on enlevait des explications. Et parce que c'était vraiment, c'était notre deal dès le départ. On n'aime pas les films qui expliquent les choses. Et il y avait des moments où on était obligé d'expliquer.
Et disons que les films qui expliquent les choses par le dialogue ou par des cartons textes. C'est-à-dire que moi, je considère quand même que le film explique des choses, mais il essaye de les expliquer par
l'action.
Le visuel, par l'action, par le mouvement, plutôt que par un effet de dialogue. Quoi,
ouais, il dit beaucoup de choses sur les robots, notamment
ouais,
sans...
Ouais.
Sans forcément qu'il y ait des grandes scènes de discussion philosophiques.
J'avais vraiment la trouille qu'on ait fait un film qui soit vraiment difficile à comprendre. Parce qu'il y a l'histoire de détective, et en plus, pour le spectateur, il n'y a pas que cette histoire policière, il y a tout un univers à décrypter, qui est une enquête dans l'enquête. Et voilà, je commence à être rassuré, j'ai des échos, visiblement les gens comprennent un peu.
Mais en fait, ce qui est vraiment assez cool, c'est que je remarque que ceux qui comprennent le plus simplement, c'est les plus jeunes, en fait.
Oui.
C'est voire même des enfants. Enfin, je m'attendais vraiment à l'inverse, mais... Et en fait, ouais, j'ai des potes qui ont des enfants, je pense à un pote en particulier qui a un enfant de 10 ans, je crois, et qui nous posait des questions sur, là, quand ils font les lasers, les robots, qu'est-ce qui... Et puis t'as le gamin qui fait genre, ils se téléchargent. Et puis on est là, oui, c'est ça. Et ah ouais, d'accord. Enfin, voilà, eux, ils comprennent instantanément le truc, et ça fait vraiment plaisir de voir ça.
Ouais,
ça paraissait assez naturel, là où, en vrai, je crois que les personnes un peu plus âgées, j'allais dire, à partir de... j'ai fait une sorte de pseudo-enquête à la louche. C'est vraiment à partir de 50 ans et plus que les spectateurs en avant-première me posaient des questions sur « Mais qu'est-ce que vous avez voulu dire avec ce film ?» Ou à la fin, j'ai l'impression que ce que vous vouliez dire, c'est ci, ça, ça.
Mais qu'est-ce que vous avez voulu dire avec ce film
voilà, <c'est ça.
rire> Mais Mars Express, ça se passe où alors? Sur quelle planète?
Oui, oui.
Planète Express.
Non, mais en vérité, ces gens-là avaient compris. Ils me disent « Est-ce que ce que vous vouliez dire, c'est ceci, cela ?» Et je leur dis bah oui c'est ça, et en fait ils avaient besoin d'être rassurés, là où en fait les plus jeunes publics ils posent plus des questions sur effectivement comment vous avez appréhendé le design de tel truc machin, mais pour eux après le reste est assez limpide au final, donc au final je crois que beaucoup de gens comprennent, simplement certains ont peur d'avoir peut-être mal compris, mais en fait ils ont compris, après sauf tes parents bien sûr, mais mais oui après non, s'il y a des gens qui sont pas du tout rodés à la SF et qui là sont éventuellement largués,
mais je trouve que le film est compréhensible, mais que cela dit vous êtes dans un registre de SF où on n'est pas obligé de tout comprendre pour apprécier
ça,
le film. C'est-à-dire Blade Runner, il y a aussi des gens qui disent c'est un robot, c'est pas un robot, c'est Ghost in the Shell, n'en parlons pas. Ghost in the Shell 2, je l'ai revu avec mon fils qui est là. C'est un film qu'on peut adorer sans rien comprendre. Quoi. Voilà,
j'ai beaucoup d'admiration pour Gattaca.
Gattaca, ouais.
Parce qu'ils abordent un sujet qui est aussi compliqué que le nôtre. Et je trouve qu'il n'y a pas un seul moment où il n'y a pas un seul truc où on ne comprend pas. Et je pense qu'ils ont été plus forts que nous pour ça.
Ouais. Ouais, mais en même temps, moi j'aime bien aussi, je suis d'accord avec toi Vincent, c'est que j'aime bien c'est ce que je disais tout à l'heure, j'aime bien aussi ce plaisir de pas toujours tout comprendre et que ça donne aussi cette impression d'être, alors si c'est bien fait, il faut pas que ce soit juste n'importe quoi, mais si tu sens qu'il y a quand même une logique derrière, si tu comprends pas tout, il y a ce plaisir d'être témoin d'un monde qui t'échappe un peu,
ouais, absolument,
et
ouais.
D'avoir été un peu téléporté dans le temps, et comme si t'étais Jacques couille, tu vois.
Non,
mais le film garde une part.
Le film garde
une part de mystère, de séduction.
C'est ça. Ça donne du grain à moudre quand tu rentres chez toi le soir et que tu discutes avec tes potes. Enfin, je sais pas, il y a un truc un peu comme ça que moi j'aime beaucoup.
Et ça garantit des visions en fait successives. C'est ça.
Alors, on a pensé tout le film, toute l'écriture en se disant, il faut absolument qu'il y ait un plaisir à la deuxième vision. Absolument.
Et est-ce que vous avez pensé à l'international quand vous avez
un petit peu, c'est vrai, puisque le film, il est le plus souvent, le texte est en anglais dans le film. Alors à ça, il y a deux raisons. Un côté international, en effet, et aussi...
On est pauvre.
Oui, voilà, oui, c'est ça. Parce que idéalement, ce que j'aurais aimé faire, c'est comme le fait Pixar, faire autant de versions qu'il y a de pays qui achètent le film. Voilà, les Pixar en France, le texte est en français, il est en anglais chez les États-Unis, bref. Et j'aurais bien aimé faire ça, mais... trop pauvre, et en même temps je me dis, mais qui a plus de chances d'aller sur Mars aujourd'hui? C'est peut-être plus les Américains que les Français. Donc, ça, je
et vois est-ce pas que le Français existera dans 200 ans?
Oui, c'est une autre question. Futurama a tranché la question, ils disent que non.
Ils ont raison.
Mais toujours est-il que, voilà, donc, on a pensé à l'international de ce côté-là, vraiment au moment du design et du texte. Alors, justement, par exemple, on savait que le début du film se passe à Shanghai. Et on se disait, si on vend aux Chinois, on va peut-être falloir vérifier ce qu'on peut ou pas mettre. Enfin, on connaît tous les histoires des films américains qui se vendent sur le territoire chinois et qui...
Faut faire attention aux cartes.
Voilà, ouais. Oui. Et en l'occurrence, ce qu'on m'a dit, c'est attention, il y a une manifestation au début de votre film. Et moi, je voulais mettre du texte écrit en chinois sur les cartons. Et on m'a dit, non, il faut pas montrer des manifestants chinois, machin. Et donc, si tu changes le texte et tu le mets en anglais... ça peut peut-être passer, donc on verra si ça passe. Ouais. Mais donc c'est une des raisons pour laquelle les textes sont aussi écrits en anglais. C'est pas voilà, c'est des Américains en Chine qui font la manif. Je sais pas ce qu'ils font là. Peut-être les États-Unis ont disparu et puis
ils ont tous déménagé. Voilà, ouais. Ouais.
Comme dans Looper.
Mais les spectateurs que les spectateurs comprennent par exemple le film, c'est une chose, hein, on arrive vraiment, on enregistre aujourd'hui, c'est le jour de sortie du film. Mais malgré comment dire votre parcours dans le milieu, en fait vous arrivez quand même avec une proposition qui n'existe pas en France, hein, qui existe peu, qui est très très rare, quoi. En tout cas c'est vraiment une fois tous les 10-15 ans qu'il y a un film d'animation de science-fiction français. Donc en fait quand vous devez pitcher ça et en fait surtout trouver le financement qui va avec, comment ça se passe en fait? Quelles sont les réticences que vous pouvez éventuellement avoir dans ces moments-là en fait?
C'est hyper facile.
C'est vrai?
Non.
T'as eu.
Non mais en l'occurrence... Non, c'est pas facile, mais nous, on a eu beaucoup de bol. C'est ça aussi quand même qui s'est passé, c'est que... enfin, un bol qui a été travaillé malgré tout, parce qu'on sortait de Last Man saison 1 et qui a été un succès. Généralement, bon, c'est le coup classique. Quand t'as eu un succès, ben t'as un peu plus de possibilités qui s'offrent à toi. Et en l'occurrence, l'autre coup de bol, je dirais, c'est que Didier Crest, notre producteur, il faisait de l'animation en tant que producteur depuis assez peu. Il avait fait Last Man, quoi, en gros, et puis une autre série auparavant pour Arte, un format court dont j'ai malheureusement oublié le nom.
Léon
ouais, ou Blaze, ou je sais, bon, Blaise, je sais pas. Ouais. Non, je sais plus. Non, je sais plus, malheureusement. Ah, pardon. Il avait pas trop connaissance, à mon avis, du fait qu'il y ait une sorte de malédiction sur l'anime SF adulte française au cinéma. Je pense pas qu'il avait dû entendre parler de Renaissance ou de Kaina, la prophétie, ces choses-là, qui avaient eu des films qui avaient été difficiles à monter et qui avaient malheureusement pas connu le succès. Et donc, plein de notre énergie de se dire, c'est bon, maintenant, quoi qu'on fasse, on fait des succès. Enfin, c'est pas vraiment ce qu'on s'est dit, mais.
Ces gars-là.
Oui, voilà, c'est ça. On va leur faire confiance. Et voilà, nous, on a foncé dans la SF et.
Il nous a donné carte blanche.
Ouais.
C'est-à-dire. Allez-y. C'est-à-dire, d'abord, il
doit trouver un financement derrière. Enfin,
oui, oui. Et c'est là où arrivent encore d'autres coups de bol. Ouais. C'est que, et ça, c'est la théorie de Didier, et que je pense très juste, c'est que J'ai perdu mon corps, qui est un film d'animation adulte aussi, qui a eu donc un grand succès, notamment critique, mais aussi en termes de vente internationale. Ça a été acheté par Netflix mondialement, ça a eu un retentissement à Cannes et tout. Ce film-là a eu beaucoup de difficultés à se faire financer. Très peu de chaînes se sont ont participé au financement du film. Le CNC n'y est pas allé non plus. Enfin voilà, ils ont vraiment fait ça assez en indépendant. Et voyant donc ce succès autour du film, tous ces partenaires financiers potentiels se sont dit, ah merde, on a loupé quelque chose, le prochain, faut pas le louper, quoi. Et ben le prochain c'était nous, en fait. Ouais. On est arrivé, on a fait bonjour, et voilà. Et donc ils nous ont je pense qu'on a aussi profité de cet effet là quoi, donc de ce succès précédent et de ce manquement pour ces gens là de participer à un film d'anime adulte.
Et Last Man, c'était le coup de bol intégral. C'est-à-dire, ça n'aurait pas dû exister. Quand Didier Crest, le même cinglé, nous a dit, ouais, voilà, j'ai acheté les droits de cette BD, vous voulez pas la faire? Donc, on a fait, ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, toi, t'étais pas chaud.
Non.
Et je t'ai dit, si on fait ce truc-là, après, on peut faire un long. Et
ouais, la seule fois où il a eu raison.
Mais Last Man, ça n'aurait pas dû pouvoir exister. Et c'est juste ouais. Le moment où on a proposé ça à France Télévisions, qui refusait tous nos projets systématiquement en nous disant c'est super, on va jamais le faire. Et ils nous ont dit bah écoutez, on vient d'ouvrir une case adulte. Et vraiment, notre dossier était le premier à tomber sur leur bureau. Un méga bol, quoi.
Vous êtes Forrest Gump, en fait.
Ouais, c'est ça.
Là, vous arrivez dans un truc et ça passe, quoi. Tu vois. Ok, ok. Mais et du coup, Cannes. Ouais. Si vous êtes allé à Cannes.
Oui.
Bon, c'est peut-être pour ça que tu as une bonne critique dans Télérama, en fait.
C'est peut-être pour ça. c'est le petit logo qui, voilà. Hein, qui fait du clin d'œil à Télérama,
la petite
peut-être.
Palme,
ouais.
Ah, mais il a eu la palme, bah alors.
Il y a beaucoup de films cette année qui ont eu la palme.
Je trouve ça low, parce que Télérama, j'ai l'impression que ça dépend, ça dépend complètement du critique. Je crois qu'il y a des gens qui sont... Enfin, je vais pas dire qu'ils ont bon goût, qui ont le même genre de goût que nous, et des gens qui ont des goûts très très différents.
Je n'ai pas eu la critique, hein. Moi je me repose sur... Je savais même pas qu'il y avait une bonne critique.
J'ai écrit dans Télérama, donc
c'est vrai.
Ah ouais, ouais. Oh.
Bon bah alors on va se calmer.
Alors,
tout
Vincent,
de suite.
Si j'avais su ça. Donc ouais, Cannes, c'est comment ça se passe, enfin la réception première en fait là-bas, parce que c'est le premier public en l'occurrence.
Ouais, c'est vrai. Alors c'est particulier. Là, le Cannes, c'est vraiment un désir de producteur et de distributeur avant tout, hein, d'y aller, parce que nous, on voulait finir le film tranquillement. Et en fait, aller à Cannes, ça implique une date qui est même antérieure à la date de sortie du film, et donc faut se presser, il faut finir, faut cruncher comme des malades, et donc bon, c'est pas le meilleur truc qui soit. Mais donc on l'a fait quand même, parce que apparemment c'est bien d'y être pour justement les ventes internationales, tout ça. Ça je l'ai compris après coup, hein, parce que moi j'étais dans mon tunnel de travail sur le film, et donc j'étais là, j'allais dire en tirant, voilà, je veux pas faire croire non plus que j'étais un dictateur sur le film, mais en tout cas à plutôt faire ma mauvaise tête et à pas vouloir céder sur des trucs comme ça. Mais oui, ça avait un intérêt. Maintenant, c'est vrai que Cannes, c'est un endroit vraiment bizarre. Enfin, je suis pas hyper à l'aise dans ce monde-là, que je connais pas trop, et qui est surtout un monde de cinéma live déjà. L'animation, il y a pas énormément de, il y a pas tellement sa place. On a l'impression qu'ils sont bien gentils de nous filer un coin de table à la table des enfants, quoi. Tu vois, c'est un peu bizarre. Et effectivement, on a été d'ailleurs projeté à la plage, ce qui est à la fois... J'aime bien ce principe de faire du cinéma plein air, j'ai aucun problème avec ça.
La salle était ouverte, il y avait des gens qui pouvaient rentrer.
C'est ça. Ouais. L'autre truc qui est bien, c'est que du coup, c'est un public qui est peut-être un peu plus fait de personnes qui viennent un peu par hasard. Il y a aussi, tu vois aussi des gens qui sont juste à marcher dans la rue et qui s'arrêtent, qui font « Tiens, c'est quoi ce truc ?» et qui... Tu peux voir qu'il reste accroché, donc ça, c'est un vrai signe que ton film, il accroche des spectateurs ou spectatrices, ça, c'est cool. Mais après, le revers de la médaille, c'est que bah, t'as les lumières de la rue, t'as le bruit ambiant, des fêtes à côté, des vagues, s'il pleut, bah, c'est annulé, voilà. Et c'est souvent les films d'anime qui sont mis là, à la plage, avec le cinéma de... comment ils appellent ça, de patrimoine. Ou justement, bon, aussi, si ils passent French Connection là et que c'est annulé, bon, c'est un film que tu peux revoir plus tard, c'est pas grave.
Il y a 50 ans.
Voilà, et bon. Mais là, c'est quand même un nouveau film que tu es supposé présenter comme un peu une exclusivité et tout, puis tu es un peu soumis à des...
Et puis, vous étiez en compétition, si je dis
non,
pas.
Non, pas de
compétition.
Sélection officielle, mais ouais. Hors compétition,
ouais. D'accord, ouais. C'est ça.
On pouvait pas perdre, mais on pouvait pas gagner.
Ouais mais alors, après ça me va très bien, je suis pas chaud sur les compètes en général.
C'est pas forcément une logique de compète, mais en tout cas en l'occurrence dans le cadre d'une sortie qui arrive 6 mois après en première diffusion en France et ce genre de choses, je pense qu'il y a aussi normalement une démarche là-dedans de faire connaître le film, donc quelque part de le soutenir avec ou sans prix, peu importe. Et c'est là où effectivement c'est étonnant d'en faire une première diff mondiale sur la plage.
Moi j'ai un souvenir absolument horrible de Cannes.
Ouais.
Le passage sur le tapis rouge, j'avais l'impression de traverser un intestin et qu'il était très encombré. Mais par contre, il y a un effet Cannes de ouf.
Ouais.
C'est-à-dire la pastille sur l'affiche, de l'avoir sélection officielle Festival de Cannes au générique, instantanément, on a parlé de nous à l'étranger. Et je crois qu'il y a des sélections qui regardent ce qui a été sélectionné à Cannes et banco, on est présélectionné. Donc, on peut cracher dans la soupe autant qu'on veut, ça marche.
Oui, c'est fait pour ça. Clairement, bien sûr.
Oui, donc je pense coup, que le cracher dans la soupe, c'est ça que tu veux dire.
Non, non, j'adore Kahn, réinvitez-moi.
Non, on n'a pas beaucoup parlé des robots dans le film, qui est quand même un élément central. Et moi, j'ai adoré le côté naturel de lien entre les humains, les augmentés, les robots, etc. Mais je pense que on va peut-être pas, trop développer ça. Mais j'aimerais bien. Alors on va spoiler donc ceux qui veulent pas entendre, voilà. Sur la fin,
coupez le son.
Sur la fin, il y a les robots ont un plan, on va dire, et qui est de se regrouper dans un téléchargement assez fusionnel.
Tu spoil littéralement.
Oui, bah j'ai, non, je l'ai dit.
Il a prévenu. D'accord,
okay. Ouais. Ils sont habitués.
En abandonnant leur corps, et je voulais savoir à l'écriture, puis ensuite à la réalisation, si de votre côté vous l'aviez pensé comme quelque chose de technique, ou si vous y aviez ajouté une dimension peut-être religieuse,
les deux.
Les deux, d'accord.
Ouais. Oui, non seulement les deux, mais en plus même sur la signification du plan et de ses implications, on n'était pas d'accord l'un et l'autre, et donc on se battait un peu sur « non, c'est moi qui ai raison, non, c'est moi ». Et au final, je me suis dit que c'était intéressant d'avoir les deux en même temps, parce que je trouvais que ça faisait écho justement à un thème charrié par les robots depuis qu'on a inventé les robots, c'est-à-dire le déterminisme et le libre arbitre, et donc de renvoyer ça aux spectateurs et spectatrices pour voir j'espérais cet effet de spectateurs qui sortent du cinéma et qui parlent de la fin et qui disent ah moi j'ai compris ça, bah non c'est bizarre, moi j'ai compris autre chose, et que au cours de la discussion on se dit mais pourquoi moi j'ai préféré comprendre ça que ça, et bah, voilà, et donc parce que c'est vraiment un des trucs qui me semble intéressant avec la figure des robots ou des IA, c'est que c'est une thématique qui est là pour nous faire nous poser des questions sur nous-mêmes en réalité, hein. C'est toujours un peu des métaphores de nous malgré tout, et en même temps il fallait que ça soit également crédible premier degré en tant que machine, et c'est pour ça que le fait de se débarrasser d'un corps nous semblait absolument logique. Les corps qu'ils ont ne sont là que pour être des interfaces de lecture pour les humains, pour les comprendre et pour nous servir. Effectivement, ils ont ces proportions là pour pouvoir passer les portes qui sont les nôtres, etc. Mais une fois débarrassés d'une sorte d'esclavagisme envers les humains, ils ont peut-être plus besoin de corps du tout. S'ils ne sont que des datas, ces datas peuvent se fusionner et éventuellement être une conscience collective, quoi.
Et ce que racontent les robots dans notre film, par transparence, ne parle que des humains. Mm. Et en fait, on s'est énormément amusé à faire que l'empathie soit beaucoup plus du côté des robots du côté des humains. Et notre héroïne, par exemple, c'est visiblement un cœur d'artichaut dès qu'elle a un coup dans l'aile. Mais par contre, les relations amoureuses entre les humains, c'est fini, quoi. Ils n'y arrivent plus du tout. Et c'est beaucoup plus pratique d'avoir un robot qui va nous donner tout ce qu'on veut et qui va nous donner raison. Moi, c'est ça que je voudrais, moi.
Et entre eux, ils y arrivent bien aussi.
Entre eux, voilà. Exactement. Et même entre eux, ça a l'air super.
Ouais, ça a l'air cool.
Ça a l'air super. Ouais.
Mais
pardon, vas-y,
Clément. Cette fin, ça m'a beaucoup renvoyé à la fin de Her.
Ah oui, tout à fait.
Finalement, là, c'est pas des robots, hein, puisqu'ils sont même pas incarnés, c'est juste des programmes d'IA, mais finalement, on est sur la même décision de, bon, on va les laisser, les humains, faire leur truc de leur côté.
Est-ce qu'on l'avait vu ?
Bah, toi, tu m'avais dit que tu l'avais vu. Alors, je me souviens très bien qu'à l'époque du scénario, on m'a dit « Ah, ça me fait penser à Her, justement, la fin. » Moi, je ne l'ai pas vu encore, ce film. Et donc, je me suis dit « Ah, merde !» Et tout. Ouais, alors, je t'en ai parlé et tu m'as dit « Mais non, c'est bon, ça n'a rien à voir. » Ok. Ah, et donc, on est parti comme ça, et c'est pas grave. Je me suis dit « Je ne vais pas le regarder, je ne me laisserai pas influencer. » On m'a aussi dit que la bande dessinée Carbone et Silicium pouvait faire penser également à... Enfin, notre film pouvait y faire penser, vu qu'elle est sortie
ça,
avant nous. Pas lu non plus, en me disant tant pis, c'est pas grave, on y va. Mais bon, il faudra que je rattrape tout ça et que je vois. Mais certainement qu'il y a peut-être même encore d'autres histoires ou de films. Mais c'est vrai que nous, il y avait ce truc un peu Virginie Despentes, on se lève et on se barre à la fin, quoi. Tu vois, après les Césars, elle avait fait cet article dans Libé qui m'avait un peu marqué à l'époque. Et donc je me suis dit, ah, c'est marrant, on peut faire ça aussi.
D'ailleurs, j'ai lu dans une autre interview que pour vous, les robots, ça représente aussi une part des humains aujourd'hui.
Bien sûr, bien sûr.
C'est les noirs, c'est les gays, c'est tous les opprimés, en fait, les ouvriers, le lumpen prolétariat. En fait, la première idée, c'est les esclaves noirs. Et au fur et à mesure, ça s'est complètement élargi. Et même les dernières images, pour moi, en écrivant le film, on pensait à des images de Shoah. Donc c'est tout ça, ça mélange tout ça.
Oui, c'est ça, c'est un rapport à la norme et au hors norme, justement. Les robots, c'est ce côté hors norme ou marginalisé ou laissé pour compte. C'est parce qu'il fallait, en fait, il fallait qu'on bâtisse un rapport entre les humains et les robots, et donc un rapport inégal. Et donc on a vu tout, on a été un peu pioché partout pour faire comprendre ça. Mais c'est pour ça que du côté des robots, il y a plus de marques de foi, par exemple, ou de religion, et pas chez les humains qui font des enterrements, mais c'est des enterrements civils, etc. Et les marques de religieuses sont plus du côté des robots. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça. Dans le film.
Mais c'est marrant parce que c'est plus ciblé, en fait, même en le revoyant une deuxième fois et tout, le rapport par exemple entre Aline et Carlos joue sur cette thématique aussi, c'est-à-dire que tu parlais du libre arbitre, des trucs comme ça, il y a un moyen, ça peut être un détail dans le film, mais il y a ce fait que le fait qu'en fait c'est une ancienne alcoolique qui va finir, bah je spoil, retomber dans l'alcool, mais le détail qui m'a plu, en fait, c'est cette bouteille, en fait, où il y a un verrouillage, et en fait elle le déverrouille en deux secondes, tu vois, elle dit non mais c'est bon, en fait. Donc en fait, comme si le verrouillage servait à rien. Ouais. Moi, ça m'a fait comme si c'était le papier qu'on devait se signer pour sortir pendant le Covid, pour aller faire des courses, tu vois. Tu disais, mais ça sert à quoi, en fait, exactement? C'est très bizarre, et ça questionne du coup la logique du libre arbitre, du personnage, et aussi son humanité, en fait. C'est quelque part, c'est faille d'humanité, en fait, là où...
Oui, bien sûr, mais en fait, on a aussi pensé tous les personnages comme ayant soit des addictions, soit des obsessions, justement sur ce sujet de est-ce qu'ils sont pas autant programmés, les humains, que les robots du film, parce que, voilà, c'est ça, Roberta, elle veut absolument libérer les robots, c'est ça son objectif dans la vie, elle a rien d'autre, on dirait. Aline, elle
résout l'enquête.
Voilà, et puis elle est aussi dans cette addiction d'alcool. Enfin, voilà, ils ont tous un peu des trucs comme ça qui les taraude et dont ils n'arrivent pas à se défaire. Et donc il y a effectivement, c'est brodé dans les deux sens pour jouer avec ces thématiques-là.
Pour répondre.
Ouais. Et il y a un jeu auquel on s'est beaucoup, beaucoup amusé avec le personnage de Carlos sur... comment ne pas spoiler,
je crois qu'on
on a
raconté la fin.
Ah bah bravo. À un moment, il est déplombé et...
Déplombé, ça veut dire qu'en fait on lui retire son cadenas, on va dire,
qui l'empêche de dire des gros mots, voilà, et de porter atteinte aux humains.
Comme toi, en fait, c'est ton cadenas.
Et une fois qu'il est déplombé, il va quand même se retenir de faire des choses. Et est-ce que c'est son libre arbitre? Est-ce que c'est quelque chose qui reste de son déplombage? Est-ce qu'il n'est plus la même personne en réalité et qu'il est plus sage que quand il était humain?
Ouais, est-ce que c'est sa morale ou quoi? Enfin, il y a des trucs comme... Effectivement, il s'auto-censure malgré le fait d'être décensuré.
C'est ce qu'on fait, nous.
Mais ce qui est génial par rapport à ça, en plus, c'est que la façon dont vous l'utilisez, c'est pas forcément, vous partez pas dans ces règles-là, mais en fait, c'est une super dynamique, c'est une dynamique thématique, mais c'est aussi une super dynamique de buddy movie. Vous faites pas du tout vraiment un buddy movie, mais en fait, même de temps en temps, ça ressort forcément, puisque ça fait partie du genre policier, du genre...
En plus, pour moi, ça rend les deux personnages plus vivants, en plus, ils se balancent de temps en temps des vannes, où ils sont un peu saoulés l'un par l'autre, etc., ils lèvent les yeux au ciel, enfin voilà. Et donc, c'est aussi un des trucs qu'on s'est tout de suite dit, c'est qu'il fallait qu'il y ait aussi un peu d'humour dans le film et que ça soit pas les grandes thématiques extrêmement sérieuses et sombres, et du coup ça va être le film sur le Mont Olympe et puis on va ouvrir la mer en deux et puis ça va être que avec des chants lyriques. Non, il faut aussi pour justement crédibiliser encore ce monde qui est aussi une part d'humour, parce que ça fait partie de la vie.
Ouais. Exactement, ils sont humains, y compris les robots d'ailleurs, ils ont été créés par des humains, donc ils ont de l'humour d'humain.
Ouais.
Et alors, au regard de tout ce qu'on vient de dire sur les robots, justement, moi, j'aimerais bien qu'on parle deux minutes de ces nouvelles créatures qui sont créées par Roy Jacker et du coup qui sont plus des robots, qui retournent vers de l'organique. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que ça raconte?
Une arnaque. En fait, c'est l'histoire de l'obsolescence programmée, c'est-à-dire qu'il faut toujours trouver un moyen de te vendre l'iPhone 15 et bah, il faut t'expliquer que l'iPhone 14, bah, il faut le jeter à la poubelle, il était pourri, regarde ce qu'il fait l'iPhone 15. Et voilà, cette nouvelle génération, visiblement, c'est moins bien, c'est plus cher, mais c'est nouveau.
Oui, c'est ça, ils ont plus d'idées en fait. C'est ça le principe. Et on se disait que c'était marrant de faire le tour du compteur aussi pour essayer de représenter ce que ça pourrait être. Et je pense aussi que je me l'étais pas réellement formulé au moment de où on se l'est fabriqué, mais j'ai l'impression que comme on est dans ce monde stérile où tout est devenu artificiel, les rapports humains, etc., le fait que la nouvelle technologie de ce monde-là soit une espèce de refoulé organique, biologique, comme si ça allait travailler de l'intérieur et que ça ressortait malgré eux, quoi. Qu'il y avait un truc un peu comme s'ils avaient peur du biologique et qu'ils recrachaient des monstres. Du coup, il y a un truc dégénéré.
Ouais, un truc énorme, quoi.
Ouais, c'est ça, voilà.
C'est terrifiant. Et justement, tu dis ils ont peur du biologique, mais non, visiblement, ils en ont pas peur du tout. Ils viennent le voir, c'est le nouveau truc. Je sais pas si c'est visible dans le film, mais quand ils vont dans le magasin de meubles, ils sont en train de regarder un nouveau matelas qui est organique.
Le film dit que ça marche pas.
Le film dit que ça marche pas.
Donc,
bien sûr.
Il y a cette curiosité de gadget, mais qu'en fait ça prend pas, quoi.
Tout à fait. Et oui, d'ailleurs, ils arrivent pas à les fourguer.
On n'est jamais d'accord.
Oui, vous l'avez écrit ensemble, en fait.
Oui, mais il y a longtemps. Ouais. Je sais plus, on était amis à l'époque.
Oui. Ouais, c'est... Et.
Salaud.
pour aller au bout de mon idée, ils ont peur des robots. Et ça commence par une manif, les robots dehors, machin, et on sent qu'il y a un mépris de classe pour les robots. Mmh. Par contre, ils sont hyper emballés par ce truc, mais en fait, qui est ultra inquiétant. Ces blobs organiques, les robots, ils ont beaucoup moins de chances de les bouffer que ces machins dans le bocal, là. Ouais. On sent qu'à un moment, ça va te sauter à la gueule, et puis ça va te phagocyter.
Et c'est ça qui est bien aussi de spoiler, en fait, finalement, et en parler tout ça, ça révèle toutes les couches de densité du
film. Donc allez voir le film, puis regarde.
Ouais, c'est ça, exactement. De toute façon, il faut toujours aller voir le film avant, dans l'absolu, quoi. C'est un peu l'idée, quoi. T'avais une question, je t'ai vu, en fait, te jeter sur...
Ouais, ça fait un quart d'heure que j'essaie.
Voilà, je sais, tu vois, je sais, c'est pour ça, tu vois.
Vas-y, c'est ton moment.
Je me souviens plus. Merde.
Trop humain, Vincent.
Non, en sortant de la projection de presse, où t'étais là, il y avait mon fils aussi qui était là, et avec Barthélémy, on s'est regardé, on s'est dit, ça ringardise The Creator, quand même.
On en parlait il y a 2 heures.
Et que c'est... ça fait du bien. Enfin, cocorico. Voilà. Parce qu'on nous vend un truc... un prototype de film de SF américain sur l'intelligence artificielle. On sort de là, c'est assez consternant. Et puis... et par contre, Mars Express, à la fin, on sort et on a une identité très très forte de SF avec une fin absolument remarquable. Moi, la fin, ça m'a, même si c'est pas pareil, ça m'a évoqué la fin du premier Star Trek de Robert Wise.
Ah, bien sûr.
Avec Viger.
On en parlait aussi il y a 2 heures.
C'est une fin de. J'ai vu le film Adolescent, ça m'avait complètement
pareil.
Marqué dans le côté métaphysique. Et donc voilà, bravo.
Merci beaucoup. Alors moi j'ai pas vu The Creator encore parce que pendant 5 ans
le screener est pas tombé.
Ouais, c'est ça. Je vais le chercher, j'ai pas cherché non plus. Non, mais en fait pendant 5 ans et demi, j'ai pas vu beaucoup de films, voire quasiment zéro, du moins au cinéma. Et là depuis avec la promo, c'est pareil, j'ai loupé plein de films merci beaucoup. En tout cas,
j'ai vu la première demi-heure et j'en parlais justement.
De The Creator.
Ouais, j'en parlais justement il y a 2 heures avec un copain qui est venu voir le film on est tombé. Et justement, il faisait le rapport avec Mars Express et lui, il l'a vu en entier. Il est allé au cinéma. C'est un fan de SF comme nous et il m'a dit je suis sorti furieux. Mm. Et je comprends. Si j'avais payé ma place, ça m'aurait rendu dingue. Ça me rend dingue qu'on fasse des robots humanoïdes avec un trou dans la tête. Ça me rend fou. Ça me rend fou que les modules traducteurs du futur, ils parlent avec une voix de robot. Ça me rend taré. Ça me rend taré que les robots chinois, ils ont un accent chinois quand ils parlent anglais. Et ça me rend taré que les robots africains, ils aient des dreads. C'est pas possible, quoi. Et vraiment, alors, je voulais le voir parce que tout le monde en parle. Il y a même des gens qui veulent nous faire des compliments, qui disent « Ah, vive la SF, regardez, on a The Creator et Mars Express. »
Non.
Ça me rend malade, ça me rend malade. Voilà. Et après, je suis sûr que ce réalisateur est super et tout ça, mais il ne faut pas faire ça.
Une dernière question, peut-être ? pour boucler.
Ouais.
Je sais pas, mais en fait là c'est le jour de la sortie. Vous vous sentez comment par rapport à ça? Parce qu'il y a quand même des enjeux assez.
Bah là tu vois j'étais bien, j'avais oublié que c'était voilà, sorti aujourd'hui. Voilà, et en fait tu vois, finalement, là, tu me rappelles c'est... le truc genre non, ah non, on est deuxième derrière Napoléon, non. Non, ben bah,
Napoléon voilà. M'emmerde.
Oui, c'est ça. Bah oui, non mais je lui envoie des piques à Ridley Scott là, tiens. Non mais apparemment ça démarre bien. Alors ça se trouve entre-temps pendant l'émission on a reçu des mails genre c'est en fait bide. C'est un échec, c'est incroyable. Mais a priori
désolé,
c'est bon démarrage donc c'est plutôt encourageant et cool quoi. Effectivement, ce qu'on peut espérer c'est que non seulement le film se rembourse, et je crois que c'est à partir de 200 000 entrées qu'on peut commencer à être content, ce qui ne paraît pas si inatteignable, hein, je pense que c'est tout à fait faisable. Et puis plus on montera, plus on sera heureux évidemment, et riche. Mais c'est le vrai intérêt, c'est de pouvoir donner effectivement de l'espoir pour, et un levier pour pouvoir faire d'autres films, déjà nous premièrement, mais aussi toutes les autres personnes dans l'animation française qui ont aussi comme ça des désirs de faire des longs métrages ambitieux, de genre ou pas, pour adultes ou pas, mais avec des propositions encore différentes et ouvrir encore le spectre des possibles quoi. C'est ça, parce que souvent c'est quand même très compartimenté. Quand un truc marche, on se dirige et on ne fait que suivre ce couloir-là, et puis on n'ose pas aller d'ouvrir d'autres portes et tout. Et nous, ce qu'on espère, c'est justement pouvoir élargir ce spectre, quoi.
Moi, je suis rassuré. Je suis déjà rassuré sur. On fait pas un bide. C'est clair. Maintenant, le succès en France, très bien. Moi, j'attends pas un succès, le million d'entrées ou je sais pas quoi, parce qu'il y a un plafond de verre, on fait un film d'animation. Et moi, j'ai plein d'amis qui adorent ce que je fais, et c'est de l'animation, ils peuvent pas voir. C'est carrément, ils me disent, je suis désolé, c'est un dessin animé, je ne peux pas avoir un dessin animé. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont comme ça. Donc, c'est cool, le film sera rentable, c'est à peu près certain maintenant, on a des très bonnes critiques. Ma vraie question, c'est comment il va être reçu à l'international? Comment il va être reçu aux États-Unis? Comment il va être reçu en Asie? Alors ça, c'est énorme point d'interrogation et mon espoir est situé en réalité ici.
D'accord.
Alors, dernière question, parce que effectivement, on n'a pas du tout parlé de l'animation en soi, alors que c'est quand même un élément important.
Mais tant mieux, tant mieux, parce que c'est pas un genre, c'est un non. film. Avant tout, c'est un film de science-fiction.
Tout à fait. Donc, je garderai mes questions techniques pour moi.
Non, vas-y, parce qu'il y a quand même... je suis d'accord avec Laurent, évidemment, que l'animation n'est pas un genre, etc. Mais néanmoins, on utilise quand même l'animation et ses techniques pour servir la mise en scène du film. Donc, je t'en prie.
Bah, moi aussi, je suis d'accord avec le fait que ça ne soit pas un genre. Mais je me demandais ce qui avait guidé vos choix. Justement, on parlait de 2D, 3D. Qu'est-ce qui a guidé vos choix?
Voilà, oui, c'est vrai qu'assez tôt, même au moment du scénario, pour plusieurs raisons, et souvent les choix esthétiques du film croisent à la fois un aspect pragmatique, soit de fabrication, soit de cohérence dans l'univers du film, et en même temps... idéalement, ça doit être une métaphore ou un symbole qui va maximiser les thématiques du film. Et en l'occurrence, pour les robots et les humains, on a utilisé deux techniques d'animation différentes, à savoir donc les humains sont dessinés et le rendu des humains est dessiné à la main par des humains, par des animateurs et des animatrices. Et puis les robots sont rendus par des machines puisqu'ils ont été faits en 3D, alors également pilotés par des humains évidemment, mais le rendu dans le mouvement, etc., est un peu différent pour les uns et les autres. On voit que pour les robots, il y a un volume parfait du fait qu'ils soient modélisés en 3D. Cela dit, ils sont quand même rendus en cel shading pour imiter le rendu dessin animé fait par les humains. Donc il y a ce jeu de confusion. Et tout ça, une fois dit, n'est pas suffisant puisque le principe, c'est pas seulement objet manufacturé contre être biologique, mais plutôt la manière dont les personnages se voient eux-mêmes et comment ils pensent leur propre nature. Et donc Carlos, qui est totalement artificiel, hein, c'est un ancien humain, mais qui s'est sauvegardé dans un corps qui est plastique et métal uniquement, il est quand même dessiné à la main pendant toute une grande partie du film, parce qu'il se considère comme étant toujours Carlos, l'humain qu'il a été, etc. Et à un moment du film, il y a une bascule et la technique devient double sur lui. Il y a à la fois de la 3D et de la 2D parce qu'il a ce questionnement sur sa propre nature, une hésitation. Et voilà, ça m'a permis de jouer comme ça esthétiquement et métaphoriquement sur le film. Et d'un point de vue pragmatique de prod, ça me permettait de faire un corps un peu plus compliqué pour Carlos, une fois qu'il a plus ses vêtements, et des designs de robots un peu bizarres et complexes, qui auraient été trop chiants à animer et à redessiner à la main tout le long du film. Et par ailleurs, j'ai quand même cassé les pieds aux animateurs, aux animatrices, parce que les épaules de Carlos sont hyper chiantes à dessiner, son col aussi, etc. Enfin, y a des petits détails comme ça, où je les ai fait suer, je suis désolé.
Pardon.
Et est-ce que ça vous a donné envie d'expérimenter justement d'autres mélanges de formats comme ça, peut-être avec, pour le coup, des comédiens en chair et en os
Pourquoi pas. En fait, après, je prévois pas en avance. C'est vraiment le scénario qui donne les idées de mise en scène quand même, parce que je pense que c'est les films qui guident leur forme. Malgré tout, c'est vrai que pendant qu'on écrit, moi j'aime pas dessiner à son grand dam, hein. Lui il aimerait bien que je fasse plein de dessins pendant que
Alors moins maintenant ouais.
Mais moi j'aime pas, je préfère attendre le dernier moment pour pas avoir de blocage ou pas me dire tiens j'aimais bien ce design mais maintenant comme on a viré cette scène ça sert plus à rien, et donc je sais que je pourrais en faire des chéris comme on dit dans l'écriture, où on se bloque sur des idées qu'on aime bien alors qu'elles ont plus de sens et on veut les garder à tout prix, et on essaie de faire entrer des ronds dans des carrés et tout ça, et donc le dessin c'est ça, je préfère faire chaque chose en son temps et me dire que peut-être j'aurai encore une meilleure idée plus tard. De toute façon, et puis si j'ai oublié cette idée, c'est qu'elle était peut-être pas si bien, cette idée visuelle, et de me laisser la possibilité de réinvestir le scénar avec le temps et d'avoir de nouvelles idées.
Et j'ai travaillé avec quelques autres réalisateurs de dessins animés. Jérémy Warraud, Hervé de Crécy, Lisa Mandel, et ils dessinent tous. C'est-à-dire, pendant qu'on raconte l'histoire, ils font des croquis, tous. Lui, c'est hallucinant. Même, tu oublies comment on dessine. C'est-à-dire, quand il t'y remet, tu me dis, ah, je sais plus dessiner.
Ah oui, moi, j'ai pas dessiné depuis le mois de mai, là. Donc, là, je pense que ça va être une catastrophe quand je vais reprendre le dessin. Je vais être là, waouh, je sais plus dessiner.
Très bien. Bah, merci beaucoup. Bon, on espère que tu t'y remettras quand même. Sans trop de difficultés la prochaine fois.
Ça va être dur, mais après maintenant je connais le processus, donc maintenant tu vois je vais être déprimé pendant 20 minutes et faire ah oui c'est vrai c'est comme d'hab.
Deux semaines.
Ouais.
C'est comme le vélo, ça revient.
Oui c'est ça.
Super. Alors on va en dire deux mots. Mars Express c'est pas seulement un film, c'est aussi un roman. Un roman qui est sorti le 8 novembre dernier chez Bragelonne, roman préquel écrit par Cédric Degotex, qui explore le passé d'Aline, Carlos et Chris Roy Jacker, donc les protagonistes du film. Il est sorti donc chez Bragelonne. Et ça, le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Jérémy, Laurent, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci.
Merci Stéphane, merci Vincent.
Merci Clémence.
Merci Alain aussi à la technique.
Merci à vous.
Et puis, merci à vous toutes et tous qui nous suivez, qui nous écoutez, qui êtes un peu plus nombreux chaque semaine. Si vous nous découvrez pour la première fois, bien n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucun épisode. Si vous voulez nous soutenir, rendez-vous sur Tipeee, Patreon ou KissKissBankBank, mot-clé Capture Mag. Vous pourrez souscrire à un don récurrent ou un don ponctuel éventuellement, mais en tout cas, nous aider pour qu'on reste indépendant et qu'on continue à développer nos programmes. On compte sur vous. Et puis, n'hésitez pas à mettre des petits cœurs sur les applis de podcast, des commentaires, reposter nos contenus sur les réseaux sociaux, bref, contribuer à nous faire connaître. On se retrouve le mois de décembre pour le prochain épisode de Saltan, retour au format classique. Salut, à bientôt.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itsinas.
Kayla Itsinas. I'm Kayla Itsinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.